Nous prenons la Bible dans le livre de Genèse au chapitre 2. Genèse chapitre 2 à partir du verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Nous allons au verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Chapitre 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Et nous connaissons la conséquence de cet acte, la conséquence de cette désobéissance. Les souffrances et les guerres que nous pouvons vivre aujourd'hui ont commencé à cause de ce péché. Des hommes, un homme, une femme créée à l'image de Dieu selon la ressemblance du Seigneur. Un homme à qui Dieu va donner autorité sur toute la création, sur les animaux, sur la végétation, sur les poissons, sur toute chose qui se meut sur la terre, l'homme va en être le garant, va en être le gérant. Il va avoir le pouvoir absolu. C'est lui qui domine sur toute chose. Et Dieu le place dans ce jardin afin qu'il en prenne soin. Mais il lui donne un commandement de ne pas toucher, de ne pas manger un arbre. Alors que Dieu l'a mis dans les meilleures dispositions pour qu'il puisse vivre heureux, pour qu'il puisse exprimer son pouvoir, Dieu lui donne qu'un petit commandement de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Non seulement Dieu l'interdit, mais Dieu l'avertit des conséquences. Il ne s'est pas contenté de lui dire « ne touche pas », mais il lui en a donné les conséquences. Parce que si tu touches de cet arbre, certainement tu mourras. Certainement la mort entrera. Et Adam a désobéi. Il a péché contre Dieu et le mal est entré. Il y a des réalités que nous vivons dans notre terre, sur notre monde, et qui sont des réalités mauvaises, des réalités qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu, mais des réalités auxquelles les hommes s'habituent. Et lorsqu'on s'habitue à certaines réalités, on ne discerne plus forcément lorsque le mal est. Lorsque ça fait partie de notre quotidien, ça fait partie de nos habitudes, on s'y habitue et on n'en voit plus forcément les dangers. Combien d'accidents se passent autour de la route ? Donc, selon les statistiques, le plus grand nombre se passe dans un environnement que l'homme connaît. Le plus grand nombre d'accidents se passe aux alentours de la maison, donc c'est-à-dire dans des lieux que l'homme fréquente habituellement. Donc là où il a l'habitude de circuler, ce qui va faire son quotidien, l'homme ne prend plus garde, il ne fait plus attention et ça devient quelque chose de normal. Il connaît ce feu, il connaît qu'à telle heure en général, il n'y a pas beaucoup de voitures, donc il ne s'arrête plus au feu, il ne s'arrête plus au stop parce que dans ses habitudes, il sait à peu près comment ça se passe. Mais viendra qu'un jour, un élément viendra changer l'habitude et qui va créer une catastrophe parce qu'il s'était habitué dans son milieu. Combien d'accidents arrivent dans ceux qui manipulent des produits chimiques ou autres? À force de manipuler, à force de maîtriser la chose, on travaille dans le bâtiment à des hauteurs conséquentes et à force de maîtriser et de faire la chose, on ne fait plus attention. Donc les précautions qui étaient prises au début, lorsqu'on commençait, elles ne sont plus prises. Et ça crée des accidents, et ça crée des morts, et ça crée des choses irréversibles. Parce que dans nos habitudes, on s'était habitué à ce que les choses fonctionnent comme ça, et l'attention a baissé, la vigilance a baissé, et la catastrophe est arrivée. Et beaucoup de choses qu'il y a autour de nous, que nous-mêmes nous vivons, qui font partie maintenant de notre quotidien, on ne discerne plus forcément quels sont les dangers. Nous avons des comportements qui sont incohérents, qui ne sont plus logiques. Alors notre exhortation de ce soir, c'est de nous ramener à la logique des choses, de nous ramener à la bonne compréhension, à la bonne analyse de ce que nous vivons. Ce n'est pas parce que nous sommes habitués à faire un métier dangereux que nous ne devons plus prendre de précautions. Même si nous maîtrisons la chose, nous ne devons pas oublier que ce métier-là est un métier à risque, est un métier qui est dangereux. Combien même nous avons des années d'expérience, les années d'expérience ne doivent pas nous faire oublier que le travail que je fais est un travail qui est dangereux. Mais l'habitude risque de nous amener à nous faire croire que la chose est maîtrisée et que les précautions ne sont plus à prendre. Nous voyons aujourd'hui combien de personnes qui ont voulu dresser des animaux sauvages. Mais même s'ils arrivent à apprivoiser cet animal pour faire le cirque ou ce qu'on veut, et beaucoup oublient que cet animal que je maîtrise aujourd'hui, que j'ai apprivoisé, est un animal qui vit normalement dans la jungle, dont il reste un animal dangereux. Combien même je peux le maîtriser aujourd'hui, je l'impose à faire ce que je veux, mais si un coup, un son, j'oublie que c'est un animal sauvage, qu'il a été, il a eu un instinct sauvage dès l'instant où le péché est entré. Si j'oublie qu'il est devenu sauvage, alors je m'expose aussi à des dangers. Et nous voyons des personnes qui avaient dressé des animaux, mais qui se sont fait mordre par ces animaux, qui se sont fait arracher des visages. Nous avons vu même une femme se faire arracher son visage par son propre chien. Le chien ne devient pas un humain. Certains veulent faire des animaux comme des humains, comme des compagnies, un animal qui va remplacer peut-être l'enfant qu'elle n'a pas pu avoir, remplacer peut-être le mari qui est parti. Et on oublie que c'est un animal. Et en oubliant que c'est un animal, les conséquences deviennent graves. Parce qu'on s'est habitué à une atmosphère où les choses sont normales. Et nous ne disons plus que les choses peuvent changer un jour. Les choses peuvent revenir à la normale. À la base, c'est un animal sauvage. Donc même si je l'apprivoise aujourd'hui, je dois toujours avoir dans ma conception que c'est un animal sauvage. Il est devenu sauvage à cause du péché. Et beaucoup de choses qui se sont passées à cause d'Adam a amené l'homme à vivre d'une manière illogique, à vivre d'une manière incohérente. Adam avait tout pour être heureux. Il maîtrisait tout. Le premier homme, il avait l'autorité, il avait l'amour de Dieu. Il avait tout pour être heureux. Mais voici, Dieu lui demande de ne pas toucher un seul arbre, alors qu'il en avait beaucoup. Voici, il a simplement cherché cet arbre-là. La convoitise l'a eu. Et beaucoup de gens de notre siècle, même nous-mêmes quelquefois, alors que nous connaissons les interdits, alors que nous savons que certainement, si j'entre dans ce domaine-là, je risque de mourir spirituellement. Certainement que si j'entre dans ce domaine-là, je risque de déplaire à Dieu. Et malgré cela, nous y allons quand même. Adam a eu un comportement incohérent, un comportement illogique. Alors qu'il avait tout pour être heureux, il a convoité quelque chose dont il n'avait même pas besoin. Ça, c'est l'incohérence. Et bien souvent, nous pleurons devant le Seigneur. Bien souvent, nous gémissons devant le Seigneur pour des choses dont nous n'avons pas besoin. C'est un comportement qui est illogique. Comment vouloir quelque chose alors ce que il nous faut pour vivre aujourd'hui, Dieu nous l'a déjà donné. La Bible nous dit que nous avons été comblés de toutes sortes de bénédictions. En Jésus-Christ, nous avons toutes choses. Alors pourquoi convoiter ce qui apparemment pourrait me rendre heureux lorsque le Seigneur nous fait comprendre que être avec lui, c'est ça qui suffit. Être avec lui, c'est là où se trouve le bonheur. Jésus-Christ est le véritable trésor et celui qui trouve ce trésor n'a plus soif d'autre chose. Comment Adam pouvait-il convoiter quelque chose dont il n'avait pas besoin? Mais c'est la même question aujourd'hui que nous pouvons nous poser à nous-mêmes. Comment pouvons-nous aujourd'hui vouloir convoiter, vouloir accéder à certaines choses dont nous n'avons pas besoin en réalité? Ce qu'il nous faut, Dieu nous l'a déjà donné. La situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est celle que Dieu veut. Pourtant, nous pensons que si je change d'emploi, je serai plus heureux. Nous pensons que si j'ai plus d'argent, je serai plus heureux. Si demain j'ai telle chose, je serai plus heureux. Le véritable bonheur se trouve dans la situation, dans le lieu où Dieu nous a placés. Là où Adam était, c'est là où il devait être heureux. Ce que Dieu lui avait donné devait lui suffire pour être heureux. Il a convoité quelque chose dont il n'avait pas besoin. Il a fait preuve d'une incohérence, finalement, qui a coûté la vie à toute l'humanité. Aujourd'hui, lorsqu'on parle d'humanité, c'est une question de vie ou de mort. Lorsque Adam est créé, la question de mort ne se posait pas. La question du péché ne se posait pas. La question de la souffrance ou pas ne se posait pas. Mais désormais, elle se pose. Tout est question de vie ou de mort. Nous sommes dans un monde qui va vers l'échec. Nous sommes dans un monde qui va vers le chaos. Et tout ce que nous voyons autour de nous, bien-aimés, nous devons faire la part de choses entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Nous devons avoir un comportement cohérent avec ce que nous avons cru, avec ce que nous disons, avec ce que nous sommes. Nous devons avoir un comportement cohérent par rapport à l'évangile auquel nous avons cru. Mais la réalité, c'est que bien souvent, nous avons des comportements incohérents. Des comportements qui sont totalement illogiques. Des comportements qu'on ne peut pas expliquer. Et vous savez, bien aimé, que lorsque nous affichons des comportements que l'homme ne peut pas expliquer, ça finit comment ? Ça finit à l'hôpital psychiatrique. Parce que l'homme n'a pas de solution aux troubles de comportement. Alors ça finit avec des médicaments qui vont nous faire dormir toute la nuit et comme ça, nous laissons la paix à tout le monde. Nous n'embêtons plus tout le monde. Parce que dans ce qui est incohérent, dans ce qui est illogique, l'homme n'a pas d'explication et n'a pas de méthode valable pour ramener les choses dans le bon ordre. Notre monde est totalement illogique et incohérent. Et c'est une réalité puisque Adam a péché. Autrefois, les choses étaient logiques lorsque tout était beau, lorsque tout était neuf. Mais dès l'instant où le péché est entré, tout est devenu illogique et incohérent. Les choses qui ont été créées par Dieu pour une certaine utilité, eh bien, ont changé de nature. Les animaux qui ont été créés avec lesquels Adam pouvait vivre, eh bien, ils sont devenus sauvages. Tout est devenu incohérent par rapport à l'objectif principal de Dieu. Dieu avait créé l'homme pour dominer sur les animaux, mais maintenant, certains hommes, lorsqu'ils voient des chiens courts, ils se sauvent. C'est devenu incohérent par rapport à la logique de Dieu. Tout ce que Dieu avait créé a été détérioré, et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Romains, chapitre 7. À partir du verset 15, Romains 7, à partir du verset 15, l'apôtre Paul parle. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ? Amen. Voilà l'exclamation de Paul. En observant sa propre vie, son propre ressenti, il fait le bilan suivant. Alors qu'il a envie de faire le bien, il y a quelque chose en lui qui le pousse à faire le mal. Et il va beaucoup plus loin, il dit, alors qu'il est même conscient que ce qui est mal est mal. Il est même conscient que la loi, selon Dieu, est bonne. Mais voici, lorsqu'il veut appliquer cela, il y a une loi en lui, il y a une puissance en lui qui le pousse à faire le mal. Alors il conclut que au-dedans de moi, il y a un combat. Au-dedans de moi, il y a une réalité. La réalité, c'est que je suis capable de discerner ce qui est bien. Je suis capable de discerner aussi ce qui est mal. Mais voici, je n'ai pas la force. Par mes propres forces, je n'arrive pas à accéder à ce qui est bien. Pourquoi nous sommes dans un monde incohérent? Pourquoi les hommes de ce monde sont incohérents? Parce qu'ils sont tous descendants d'Adam. Parce que nous avons tous hérité du péché d'Adam. Et la situation dans laquelle Paul se trouvait, c'est cette même situation que les hommes qui n'ont pas le Seigneur aujourd'hui continuent de vivre. Et même ceux qui ont le Seigneur continuent de lutter. Et c'est irrévocable. C'est-à-dire que notre monde, dans lequel nous pouvons quelquefois mettre espoir, bien-aimé, il ne changera pas. Il ne changera pas dans le sens où il y aura toujours le péché. Ne croyons pas que le péché quittera ce monde. Ne croyons pas qu'un jour tous les hommes seront parfaits. La Bible est claire. Nous sommes tous descendants d'Adam. Et chacun d'entre nous, même ceux qui n'ont pas reçu le Seigneur, ont un minimum d'intelligence pour comprendre ce qui est bon et pour comprendre ce qui ne l'est pas. Combien de bêtises nous avons fait dans le monde et nous nous en sommes cachés. Mais si nous étions comme des animaux, on ferait aussi librement des bêtises sans s'en cacher. Les gens qui font des braquages, ils iraient braquer sans mettre de masque. S'ils étaient si ignorants, Dieu a créé l'homme, il a créé les animaux. Et l'homme n'est pas un animal. Il a eu un minimum d'intelligence pour discerner ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Et cette lutte que vit Paul, c'est cette lutte qui va demeurer jusqu'au retour du Seigneur, jusqu'au rétablissement de toutes choses. L'homme aura dans ses membres cette loi du péché qui l'influencera toujours à vouloir se rebeller contre Dieu, qui l'influencera toujours à vouloir être orgueilleux, qui le poussera toujours à avoir des comportements incohérents, des comportements illogiques, des comportements contre nature, des comportements qui ne vont pas dans le sens, même quelquefois, qui peut comprendre que c'est le bon sens. Il le sait, mais il ira à l'inverse. Pour défier les hommes peut-être, pour défier Dieu certainement. Mais il a hérité de cela. Et Paul reconnaît qu'il y a au-dedans de lui une loi qui le dépasse. Une loi pour laquelle il ne peut pas lutter contre ses propres forces. Et cette loi du péché habite tout homme. Ce même Paul va nous dire, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit. Le seul moyen de contredire la chair, le seul moyen de contrecarrer les œuvres de la chair, c'est en marchant selon l'esprit. Or, nous savons, bien-aimés, que combien même nous avons accepté le Seigneur, nous luttons encore. Alors, à combien plus forte raison ceux qui n'ont pas le Seigneur? À combien plus forte raison ceux qui n'ont pas connu Dieu auront-ils des comportements incohérents, des comportements qui ne vont pas dans le bon sens? Le péché, nous l'avons tous irrité. Et combien même tous les hommes ne connaissent pas la loi de Dieu, il est écrit dans le livre d'Ecclésias que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Tout homme a reçu une certaine portion d'intelligence afin de pouvoir rechercher Dieu, afin de pouvoir connaître Dieu. Mais voici, Dieu a fait l'homme libre, libre dans ses choix, libre de gérer le monde dans lequel il se trouve. Dieu nous a fait libre de gérer notre propre monde. Et la manière dont l'homme gère le monde, bien-aimé, nous en voyons aujourd'hui les conséquences. Il y a tant d'exemples qui nous montrent que le monde dans lequel nous sommes est un monde qui est fou est un monde qui n'est pas logique. Je vais citer quelques exemples. Nous voyons aujourd'hui, bien-aimés, des personnes se faire flasher. J'ai regardé aux informations aujourd'hui. On a attrapé un homme sur une départementale, une route nationale, pardon, qui roulait à 300 km/h. À 300 km/h sur une nationale. Bien sûr qu'on va condamner l'homme. On va le condamner parce que c'est un comportement dangereux. Mais la question qu'on peut se poser, mais pourquoi les constructeurs d'automobiles construisent aussi des voitures aussi rapides? Puisque derrière, on va limiter la vitesse. Pourquoi ne pas fabriquer des moteurs et directement mettre au maximum la vitesse qui est autorisée dans tel pays? Est-ce que ça, c'est une logique? On interdit les hommes de rouler vite, mais on fabrique des voitures qui roulent vite. Mais c'est totalement illogique. On met le péché devant le bout du nez de l'homme. On le tente, en le poussant à acheter, on lui dit, mais surtout ne dépasse pas la vitesse. Mais puisque nous avons la science, nous avons l'intelligence, pour fabriquer des voitures, comme les voitures qu'on voit sans permis, qui sont limitées à une certaine vitesse, mais pourquoi on ne le ferait pas pour les autres? Pourquoi les moteurs ne sont pas bridés à une certaine limite de vitesse pour éviter justement de faire entrer l'homme dans la contradiction? Nous sommes dans un monde qui est totalement illogique. On met l'homme dans des tentations alors que l'homme est incapable, comme Paul l'a dit, de faire le bien par ses propres forces. Il y a au-dedans de lui une loi qui le pousse à dépasser la vitesse. Alors que quand il achète cette voiture-là, il est conscient qu'en France, c'est limité à 130. Il est conscient que dans certains endroits, c'est limité à 90. Mais j'ai une voiture qui peut aller jusqu'à 300 km/h. Mais ça serait dommage, finalement, de ne pas l'utiliser. C'est totalement illogique. Mais c'est dans le monde dans lequel nous sommes. Nous avons vu une fois, pendant la Coupe du Monde qui avait lieu en Asie, la Coupe du Monde de football. Alors, nous pouvons imaginer, bien aimé, qu'un joueur de foot qui joue dans une équipe nationale, il a quand même un bon salaire. Il a quand même de quoi vivre. Mais on avait attrapé un joueur de football qui est parti voler dans un magasin, voler un bijou. Il gagne des millions, mais il va dans un magasin voler un bijou. Alors, comme les Asiatiques sont très forts côté technologie, ils l'ont laissé tout doucement rentrer jusqu'à l'hôtel. On est venu chercher jusqu'à l'hôtel, les caméras l'avaient vu. Bien-aimé, est-ce que ça, ce n'est pas l'incohérence, quelque chose d'illogique? La personne a les moyens, peut-être même de s'acheter la boutique, peut-être même de créer un commerce. Mais voici, il va voler un bijou. C'est totalement incohérent. Et beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont des moyens ont des comportements totalement incohérents. Je me souviens à l'époque lorsque j'étais dans le monde. J'ai commencé à faire du business alors que dans la famille, parmi mes sœurs, j'étais celui à qui on ne refusait jamais rien. Tout ce que je pouvais demander à mes sœurs, elles me le donnaient. Mais par la bêtise du péché, on va faire des bêtises pour avoir de l'argent, alors que si tu le demandes à tel, il peut te le donner. Le péché rend bête. Le péché nous fait adopter des comportements totalement illogiques. Tu as les moyens, mais tu vas voler. Pourquoi? Lorsque tous les hommes même sont en accord pour dire que ce comportement-là n'est pas normal. Mais Paul a fait le bon constat. Il y a au-dedans de l'homme une puissance qui le dépasse. Lorsqu'il est conscient que ça, ceci est mal, il y a une loi au-dedans de lui qui le pousse à faire le mal. Quand bien même il sait ce qui est bien, il ira vers le mal parce que c'est quelque chose qui est au-dessus de ses forces, qui est au-dessus de son intelligence. Alors qu'il a conscient qu'il n'en a pas besoin, alors qu'il a conscient qu'il a les moyens de s'acheter, voilà, il va aller voler. Voilà, il va aller tricher alors qu'il a cette capacité-là. Il y a des personnes qui sont déjà naturellement beaux et belles, mais qui vont voir des féticheurs, qui vont voir des marabouts, des sorciers, pour avoir un homme, pour avoir une femme. C'est totalement illogique. C'est totalement illogique, mais c'est quelque chose qui est au-dessus de lui, quelque chose qu'il ne maîtrise pas. Et comme je disais tout à l'heure, le danger, c'est que dans le monde dans lequel nous sommes, nous commençons à nous habituer à de telles choses et à accepter que de telles choses fassent partie de notre quotidien, au risque, bien aimé, nous-mêmes d'avoir des comportements totalement incohérents, puisque c'est le vent, puisque c'est la mode, puisque c'est la suite logique selon le monde, alors nous empiétons dans la même voie. Nous marchons dans le même chemin pour être à la normale. Ce qui est normal, c'est ce qui est conforme à la volonté de Dieu. Nous voyons aujourd'hui beaucoup de chrétiens ne pas vouloir être chrétiens par leur comportement au milieu des païens. Parce qu'ils veulent arrondir les angles pour ne pas blesser les autres. Ils veulent adopter un langage dans lequel ils vont maîtriser tous les mots, faire attention à ce qu'on va dire parce que nous sommes dans un endroit laïque. Ils veulent être normal. Mais ce qui est normal, c'est ce qui est propre au Seigneur. Parce qu'il n'y a pas plus normal que Dieu. Il n'y a pas plus logique que Dieu. Mais lorsque nous voulons ressembler au monde, c'est que nous sommes en train d'adopter un comportement incohérent et illogique. Dieu avait créé l'homme à la base pour qu'il puisse demeurer selon sa ressemblance, pour qu'il puisse le servir. Mais voici, l'homme va adopter un comportement inverse. Et nous, les chrétiens, nous allons imiter cela. C'est totalement illogique. Nous avons été sauvés pour marcher dans la conformité, pour marcher dans la vérité. Et c'est dans cette vérité que nous devons demeurer. Même si le monde peut nous voir comme des gens anormaux, comme des gens qui sont fous. Mais mieux vaut être fou selon Dieu que d'être sage selon ce monde. Nous sommes fous pour Dieu. Et nous ne sommes pas sages selon le monde. Gloire à Dieu. Ce qui est normal, c'est d'être dans la logique de Dieu et non pas dans la logique et dans la cohérence du monde. Nous voyons, bien-aimés, que lorsque nous regardons certaines chaînes, certains programmes, on va mettre interdit aux moins de 18 ans, interdit aux moins de 12 ans. Dans certaines librairies, on va dire coin réservé aux adultes. Il y a des programmes et des livres réservés aux adultes. Gloire à Dieu qu'il y a quand même un minimum de conscience pour comprendre qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes et qu'on doit préserver les enfants. Mais voici les mêmes qui font cette loi pour que certains programmes soient interdits aux enfants. Ce sont les mêmes qui permettent que lorsque tu marches devant un tabac, tu vois en page de présentation les livres qui sont réservés aux adultes, qui sont affichés clairement. Tu vois des publicités qu'on interdit à la télé, mais qui sont exposés clairement. Donc les images du livre réservé aux adultes, qu'on interdit aux enfants, sont exposées dans les rues. Où est la logique? Ou bien on veut interdire parce qu'on dit que c'est mauvais, et on va jusqu'au bout. Mais interdire d'un côté et exposer de l'autre, c'est totalement illogique. Et c'est dans le monde dans lequel nous sommes bien-aimés. C'est totalement illogique parce que l'homme ne peut pas maîtriser sa propre vie. Il ne peut pas maîtriser ses membres parce qu'il y a au-dedans de lui une loi qui le dépasse. Une loi qui le pousse à faire le mal. Un monde totalement incohérent. Nous voyons, bien aimé, j'en discutais hier avec un frère. Lorsque nous passons quelquefois à côté du CHU de Rouen, ou le plus souvent pour moi, à côté de la clinique de l'Europe, j'ai travaillé pas mal de temps donc avec, dans une école et j'emmenais les élèves donc manger dans la restauration de la clinique, dans leur restaurant. Et donc c'est l'heure de pause, le midi. Et c'est étonnant que vous entrez dans un hôpital. J'ai même été consulter un pneumologue pour des problèmes de toux qui persistaient. Et au moment de la pause que vous passez, vous voyez des hommes en blouse bleue, en blouse blanche, en train de fumer tranquillement. En train de fumer tranquillement. Où est la logique? Des hommes qui passent 10 ans, 15 ans à se former pour expliquer que le tabac tue. 10 ans, 15 ans à se former pour sauver les autres. Les voici dans le temps de pause tranquillement, cigarette à la main. Où est la logique? Nous sommes dans un monde qui est incohérent. Nous sommes dans un monde qui n'est pas logique. Ce qui ne doit pas se faire, ceux qui font la leçon, voici, ils font la même chose. Il y a quelques années, nous avons entendu, il y a eu l'affaire d'un pédophile, l'affaire Dutroux, qui enlevait les enfants. Cet homme a été jugé comme il se devait selon la loi des hommes. Il a été jugé. Mais voici que quelques mois, ou je ne sais plus, quelques années plus tard, le même juge qui l'a jugé, on attrape ce juge-là dans le problème de pédophilie. Avec preuve à l'appui des cassettes vidéo. Le juge qui a jugé, celui qui s'est comporté mal, voici, on l'a trouvé dans les mêmes bêtises. Où est la logique? Où est la cohérence? Qu'est-ce que nous disons, qu'est-ce que nous professons, mais qu'est-ce que nous manifestons par notre propre vie? C'est l'image du monde dans lequel nous sommes. Qui dit A, mais qui fait B. Vous voyez tous ces médecins qui se forment pendant des années parce qu'ils ont soif de sauver les gens. Ils ont soif de guérir les gens. Mais ils se tuent en même temps. Alors à quoi ça sert? À quoi ça sert si finalement tu ne seras même plus disponible pour aider les gens? À quoi ça sert d'avoir fait toutes ces années d'études si c'est finalement pour mourir par la maladie que toi tu combats? C'est totalement incohérent. Mais même ces médecins-là qui ont fait des années d'études, même ces médecins-là à qui Dieu a donné l'intelligence de comprendre ce qu'ils font, voici, ils sont habités du même virus qui pollue toute l'humanité. Voici, ils sont habités de la même puissance, alors qu'ils savent que telle chose est mauvaise, eh bien, il y a au-dedans d'eux une loi qui leur pousse à faire le mal. Il y a au-dedans d'eux une loi qui leur pousse à faire le contraire de ce qui est bien. Parce que l'homme ne peut pas maîtriser sa propre vie. L'homme ne peut pas maîtriser ses propres membres. L'apôtre Paul l'a expliqué clairement. Même si nous reconnaissons que la loi morale est bonne, même si nous reconnaissons que la loi de Dieu est bonne, mais il y a au-dedans de nous une puissance qui nous pousse à faire le mal. Alors combien même nous n'avons pas voulu, eh bien nous tombons et nous regrettons, parce que c'est au-delà de nous. Nous voyons, bien aimés, les publicités qui sont faites. Et quand on dit publicité, on parle automatiquement de millions. Je discutais avec un frère qui a travaillé dans la grande distribution. Et il me dit que pour l'enseigne pour laquelle il travaillait, chaque année, il dépensait 1 million. 1 million d'euros que pour la publicité. Donc ça paraît beaucoup comme ça lorsqu'on en parle. Mais il dit par rapport aux chiffres d'affaires qu'il faisait, 1 million pour eux, ce n'était rien. 1 million qu'il consacrait dans la publicité. Alors imaginez, bien aimé, qu'il y a des personnes qui font des campagnes, qui font des publicités, qui créent des associations pour lutter contre la faim. Mais nous voyons, bien aimé, comment le gaspillage se fait. Nous voyons comment le gaspillage se fait. Je discutais avec un restaurateur, le restaurateur justement de la clinique. Je lui disais, mais nous mangeons là et à chaque fois, tout ça vous jetez, mais pourquoi ne pas organiser un service pour récupérer ça? Mais non, c'est du chiffre d'affaires, puisque si on donne maintenant, mais les gens ne vont plus acheter. D'un côté, on dépense des millions pour dire qu'il faut penser à ceux qui ne mangent pas, pour dire qu'il ne faut pas gaspiller l'eau. Mais de l'autre côté, on gaspille à tout bout de champ. Il y a des lois qui disent que lorsque l'on cuisine dans les fast-foods, au bout de tant de minutes, il faut jeter, on n'a pas le droit de vendre. Nous sommes dans un monde qui est totalement incohérent, illogique, avec ce qu'il dit. Il y a une contradiction entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. C'est le monde dans lequel nous sommes. Il n'y a rien de logique. Il n'y a rien de logique, bien-aimé, rien de logique. Il y a des personnes qui ont usé d'intelligence, peut-être pour avoir la femme avec laquelle il est aujourd'hui. Il a attendu, il a fait tout ce qu'il fallait. Et voici qu'il a la femme, il commence à la battre. Pourquoi avoir fait tout ça? Pourquoi dire que j'aime une personne si c'est pour la battre? Est-ce que ça c'est logique? Est-ce qu'on peut faire du mal à une personne qu'on aime? Pourtant, bien aimé, lorsque nous voyons les statistiques de toutes les femmes qui meurent en France parce qu'elles sont battues par leur mari, C'est vraiment ahurissant. Lorsque nous voyons les statistiques de toutes les femmes battues ici en France, et quand on dit officiellement, c'est parce que beaucoup ne portent pas plainte. Beaucoup n'osent pas porter plainte. Nous sommes dans un monde qui est totalement illogique. Mais si tu n'aimes pas la personne, laisse-la partir. Si tu n'aimes pas la personne, laisse-la vivre sa vie. Pourquoi vouloir la garder en captivité et encore la faire souffrir? Ce n'est pas un comportement logique. Tu as choisi ta femme parce que tu l'as trouvée qu'elle était belle. Elle te plaisait telle qu'elle était. Voici, tu vas la battre, elle va avoir des bleus, elle va avoir les joues gonflées, les yeux gonflés. Finalement, elle n'est plus à l'image qu'elle était au départ. Pourtant, toi, tu l'as trouvée belle. Parce que l'homme est illogique. Il est contradictoire avec ses propres pensées. On nous parle, bien aimé, que notre monde a été créé à partir du Big Bang. On nous parle que l'homme est issu de l'évolutionnisme. Il était ceci, il était cela, poisson, singe. Aujourd'hui, il est homme. Alors qu'aujourd'hui, bien aimé, les choses sont claires. Que lorsque même nous nous asseyons un instant pour essayer de comprendre comment la terre dans laquelle nous sommes peut être créée à partir de la collision des météorites. Mais c'est totalement illogique. Comment la vie peut arriver à partir de choses de la sorte, bien-aimée? C'est totalement illogique. Et nous voyons, bien-aimés, que tous ceux qui ont inventé ces théories-là, en réalité, veulent tout simplement lutter contre Dieu. Ils ne veulent pas de Dieu comme chef. Et l'incohérence de l'homme dans sa propre vie témoigne qu'il refuse qu'on lui dise ce qu'il a à faire. Témoigne qu'il refuse d'avoir pour chef Dieu. L'homme est incohérent, non pas simplement parce qu'il le veut gratuitement. Parce que Paul a bien dit qu'au-dedans de lui, il est conscient que ce qui est bon, mais que lorsqu'il veut faire ce qui est bien, au-dedans de lui, une puissance le pousse à faire le mal. Et l'homme est conscient de cela. Mais il va être contradictoire avec les autres simplement pour manifester que je fais ce que je veux. Que c'est ma vie. Je fais de ma vie ce que je veux. Alors combien même vous voulez aller à gauche pour vous montrer que c'est moi le propre chef de ma vie, moi je vais aller à droite. Alors qu'il sait bien qu'à droite, ça ne marchera pas forcément, mais parce qu'il veut prouver aux autres que c'est lui le maître de sa vie, alors il décide d'être incohérent, d'être illogique dans son fonctionnement. Pour tirer l'attention, pour montrer qu'il existe, pour montrer qu'il est capable de faire quelque chose, il va être incohérent. Mais cette incohérence-là ne produit pas la vie. Cette incohérence ne produit pas la vie. Certainement qu'elle produira la mort. Certainement. Vous savez, en France, il y a des lois qui font que certains immigrés, lorsqu'ils arrivent, on leur accorde le droit d'être en France, mais ils n'ont pas le droit de travailler. Mais à quoi ça sert? Vous lui donnez un papier officiel, il a le droit d'être en France, mais ne travaille pas. Ça, c'est vraiment la méchanceté. C'est vraiment la méchanceté. Comment autoriser un homme de vivre dans un pays où on sait qu'il n'y a rien pour rien? Si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Tu dis, tu restes là, mais finalement, tu ne travailles pas. Nous savons que les véritables pensées sont faites pour décourager cette personne à retourner d'où elle vient. Alors, on préfère adopter un comportement illogique. Au lieu de dire clairement, nous ne te donnons rien du tout, rentre chez toi directement. On te dit, non, tu peux rester en France, mais tu ne travailles pas. Tu restes comme ça. C'est totalement illogique. C'est le monde dans lequel nous sommes. Et lorsqu'on est illogique, bien-aimé, on finit aussi par être injuste. On finit par refuser et à nier ce qui est vrai, à accepter ce qui est vrai. Nous lisons 2 Samuel chapitre 12. De Samuel, chapitre 12, au verset 1er. Donc, il s'agit de David. David, le bien-aimé de l'Éternel, l'homme selon le cœur de Dieu. David qui était roi, mais qui était aussi un bon guerrier. C'était un homme de guerre. Non seulement il était roi, mais encore, il avait plusieurs épouses. Alors pendant que son armée est au combat, David est chez lui, tranquillement. Et là, il va convoiter la femme de son soldat. Il va aller très loin. Et pour vouloir cacher son crime, il va faire tuer la femme, il va faire tuer le soldat, le mari de cette femme-là. Alors le prophète de Dieu vient le voir, et nous arrivons au chapitre 12, verset 1er. L'Éternel envoya Nathan vers David, et Nathan vint à lui et lui dit: il y avait dans une ville deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan: l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David: tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela avait été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri le Héthien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri le Héthien pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elle à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret, et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. Amen. David avait tout. Et le Seigneur lui fait cette remarque. Il dit: je t'ai tout donné. La maison de ton maître, les femmes de ton maître, je t'ai tout donné. Et Dieu dit que si cela avait été peu, j'y aurais même ajouté. Mais pourquoi tu as fait cela? Pourquoi tu as fait cela? Le comportement de David n'était pas logique. Il était roi, il avait tout. Il avait plusieurs femmes. Et voici, il va convoiter. Il a été incohérent. Il était totalement illogique. David avait tout. Il avait la domination. Mais voici, il va pécher contre Dieu. Il va faire tuer un homme qui lui a été fidèle. Parce que même lorsque cet homme est venu, David l'a renvoyé: vas-y, va vers ta femme. Il a dit: mais comment? Les autres sont en guerre et moi j'irai dans ma maison. Je ne peux pas aller, je vais monter la garde devant le roi. Il a été fidèle envers le roi. David n'a pas été logique. Lui, c'était un guerrier. Et pendant que les autres guerriers étaient au combat, lui, il était sur son balcon en train d'observer une autre femme. Vous savez, bien aimé, beaucoup de fois où nous tombons en tentation, où nous adoptons des comportements illogiques, c'est lorsque nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu. Lorsque nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu, nous ne pouvons plus réfléchir comme Dieu le veut. Nous ne pouvons plus discerner comme Dieu le veut. Beaucoup ont perdu le discernement parce qu'ils sont sortis de la volonté de Dieu. Ils ne voient plus les obstacles, ils ne voient plus les dangers. Dieu les a oints pour une mission particulière. Dieu les a oints pour un travail particulier. Voici, ils refusent d'être là où Dieu veut, au moment où Dieu veut. Et dès cet instant-là, bien-aimés, les idées ne sont plus claires. Souvent, lorsque nous sortons de la volonté de Dieu, lorsque nous ne sommes pas en train de faire ce que Dieu veut, pendant que les autres sont en train de prier, de jeûner et d'intercéder, tu prends des vacances. Tu te dis: bon, je suis un peu fatigué, je vais me reposer. Et quand tu pêches à ce moment-là, tu te dis: aïe, 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 j'aurais dû aller tranquillement prier avec les frères. je ne me serais pas énervé aujourd'hui. Je ne me serais pas battu aujourd'hui. Si j'étais parti tranquillement écouter la parole de Dieu, je n'aurais pas commis cette erreur. Combien de personnes se sont blessées, se sont retrouvées à l'hôpital parce qu'ils ont préféré aller jouer ou faire autre chose pendant que Dieu les attendait à un autre endroit. Et voici, il ne pourra ni s'amuser, ni faire le sport qu'il aime, et ni venir encore partager la communion fraternelle. Parce qu'il n'était pas à l'endroit où Dieu voulait. Alors il n'a pas eu les idées claires pour voir le danger. Il n'a pas eu les idées claires pour discerner ce que Dieu attendait de lui. David a été dans ce cas un court instant. Il n'était pas au bon moment, au lieu où il devait être. Il était plutôt au mauvais moment, il était dans un lieu au mauvais moment. Et voilà, il est tombé dans la tentation. Parce que lorsque tu n'es pas à la place que Dieu veut, tu ne peux pas produire le bien. Tu ne peux pas produire ce que Dieu attend de toi. Nous pouvons produire le bien et ce que Dieu attend de nous lorsque nous sommes dans sa voie et dans sa volonté. Nous l'avons dit, bien-aimés, nous sommes tous exposés au même combat. Mais ceux qui n'ont pas encore reçu l'Esprit de Dieu, ils ne peuvent pas lutter comme le chrétien peut. Ils ne peuvent pas se tenir debout comme le chrétien le peut. Parce que c'est quelque chose qui est au-delà de notre force. Le mal est dans l'homme, le péché est dans l'homme. Et tout homme qui ne cherche pas à s'approcher de Dieu aura toujours la pensée de faire le mal, aura toujours la pensée de se mettre en colère, aura toujours la pensée de la violence. Tant que nous ne nous approchons pas de Dieu, ce mal est en nous et on ne pourra à aucun moment l'apprivoiser ou le dominer. David nous en est l'exemple bien-aimé. Il y a un comportement incohérent que nous retrouvons aussi parmi nous. Le Seigneur, lorsqu'il parle aux pharisiens, aux sacrificateurs dans Matthieu chapitre 23, il dit « Vous êtes assis sur la chair de Moïse. Vous liez les autres, mais vous ne remuez même pas le plus petit doigt. Vous poussez les autres, vous imposez les autres à pratiquer la parole, à faire ce que vous dites, mais vous-même, vous ne pratiquez pas. » C'est totalement incohérent. Et cette incohérence, nous le voyons même quelquefois au milieu de nous. Là, je parle à tous ceux qui sont parents, qui interdisent des choses à leurs enfants, mais qui font totalement le contraire. Et devant les enfants, quelquefois. Et ça emmène une contradiction dans la vie de l'enfant. Il ne comprend pas que, mais comment on m'interdit telle chose, alors que moi, mes parents le font librement. Il y a des enfants qui ne comprennent pas comment mon papa est pasteur, comment mon papa est diacre dans l'église, alors que dans la maison, il se comporte de telles choses. Il y a une incohérence qui égare les enfants. Il y a une incohérence qui égare ceux qui voient et, comme nous l'avons partagé, qui attendent la révélation de Dieu. Il y a une incohérence entre ceux qui cherchent la vérité, qui voient celui qui se dit chrétien, mais qui voient que sa manière de se comporter est totalement totale de ce qu'il prêche, opposée de ce qu'il prêche, d'une manière totale. Ce qu'il prêche, ce n'est pas ce qu'il vit. Et le Seigneur a repris sévèrement les pharisiens. Vous êtes assis sur la chair de Moïse. Vous prêchez, vous dites de faire, mais vous ne faites pas. L'apôtre Jacques va nous dire, mais à quoi ça sert d'écouter la parole? Pourquoi vous bornez à écouter la parole si ce n'est pas pour la mettre en pratique? Celui qui fait ainsi est semblable à un homme qui regarde son visage dans un miroir et dès qu'il s'en retourne, il oublie même l'état de sa face. L'apôtre Jacques dit, ne vous bornez pas à écouter la parole de Dieu si ce n'est pas pour la mettre en pratique. C'est un comportement qui est incohérent. Ce qui est logique, c'est que vous puissiez pratiquer l'évangile auquel vous avez cru. Qui peut dire, Seigneur, je t'aime, et ne pas aimer son prochain? Qui peut dire, Seigneur, je t'aime, et ne pas vouloir être disponible pour les autres? Qui peut dire, Seigneur, je t'aime, et ne pas vouloir partager? Qui peut dire, Seigneur, je t'aime, et être accroché à son argent? Dieu est amour. Mais si nous pouvons dire que nous aimons Dieu, que notre vie témoigne aussi que nous aimons Dieu, ne soyons pas illogiques, incohérents dans ce que nous prêchons. Ne soyons pas incohérents dans ce que nous manifestons. Si nous sommes enfants de Dieu, marchons aussi comme des enfants de Dieu. Ne disons pas au Seigneur, Seigneur, je t'aime. Seigneur, je te donne ma vie. Mais que tu as peur de recevoir du monde chez toi. Si tu as donné ta vie au Seigneur, mais la maison dans laquelle tu vis appartient à qui? Elle appartient à Dieu. Alors si c'est à Dieu qui est le chef, c'est aussi Dieu. Ne disons pas, Seigneur, je t'aime, alors que nous ne supportons pas la présence des autres enfants de Dieu. Si nous aimons Dieu, soyons cohérents avec ce que nous disons et pratiquons-le. L'apôtre Jacques nous dit, ne nous bornons pas à autre chose. à écouter la parole si ce n'est pas pour la mettre en pratique. Ça emmène, bien aimé, des occasions de chute pour tous ceux qui ont entendu parler du Seigneur, mais qui ne le voient pas. Or, le Seigneur a choisi de se manifester par ses enfants. Le Seigneur a choisi de montrer aux autres qu'il existe par ceux qui sont aujourd'hui appelés enfants de Dieu. La Bible nous dit dans Romains 2 qu'il y a même des païens qui se comportent mieux que des chrétiens. Il y a même des païens qui ont une manière de vivre plus exemplaire que des chrétiens. Et la Bible dit que c'est à cause de cela que le nom du Seigneur est blasphémé. C'est à cause de cela que le nom du Seigneur n'est pas respecté. Parce que ceux qui se disent enfants de Dieu sont totalement incohérents avec l'Évangile. Ils disent mais ne font pas. Dans Ecclésias chapitre 4, à partir du verset 17, la Bible nous encourage à tenir nos engagements. On nous dit que lorsque tu entres dans la maison du Seigneur, ne te presse pas d'ouvrir la bouche. Et par la suite, on nous dit que tes paroles soient peu nombreuses. Toi, tu es sur la terre, Dieu est au ciel. Lorsque tu feras un vœu au Seigneur, ne tarde pas à l'accomplir, car Dieu n'aime pas les insensés. Le Seigneur va dire encore, mieux vaut pour toi ne pas faire de vœux. Parce que si tu n'en fais pas, tu ne pèches pas. Mais si tu en fais un et que tu ne tiens pas parole, alors tu pèches devant le Seigneur. Soyons cohérents, bien-aimés, avec ce que nous faisons. Le Seigneur ne nous impose rien. Le Seigneur ne nous met aucune pression. Il nous demande de réfléchir avant de s'engager avec lui. Réfléchissons, méditons. Nous voulons aller avec Dieu, nous voulons marcher avec Dieu. Qu'est-ce que cela va me coûter? Quels sont les avantages pour moi? Sachant que marcher avec Dieu, il n'y a que des avantages. Nous sommes dans un monde qui est incohérent. Et le monde a besoin de voir des exemples. Que c'est possible de vivre et d'être cohérent avec ce qu'on dit. Que c'est possible de vivre sur la terre, et même si on est dans le besoin, de ne pas voler. De ne pas convoiter, mais de s'attendre à Dieu et de croire que Dieu le fera. Les gens ont besoin de voir que cela est possible. Il y a beaucoup de personnes qui disent « Ben, je ne fais de mal à personne ». Il y a des personnes qui disent « Mais moi, je suis bon. Je ne vole pas, je ne tue pas. » Il y avait un homme qui disait être bon, qui disait être respectueux de la parole de Dieu depuis son enfance. Dans Luc chapitre 18, un homme qui était riche, qui vient voir le Seigneur, qui dit « Mais bon maître, comment hériter du royaume des cieux ?» Le Seigneur dit « Mais tu connais tous les commandements. Tu ne voleras point. » Et autres. Il dit, je connais tout ça, puisque je les pratique depuis mon enfance. Le Seigneur dit, ben, il te reste encore une chose. Vends tous tes biens et suis-moi. Il te reste une chose. Manifeste le plus grand des commandements. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Vends tous tes biens et suis-moi. La Bible nous dit que celui qui croit au Fils ne passe pas en jugement. Mais celui qui ne croit pas est jugé, et la colère de Dieu demeure sur lui. Cet homme qui se disait être bon a été incohérent avec ce qu'il pensait en lui-même, combien même il pouvait être sincère. Parce que pour le Seigneur, ce qui est cohérent, c'est que celui qui se dit bon finisse un jour par accepter Jésus-Christ. La logique selon Dieu, c'est ça. Si tu es bon, tu aimeras celui qui est le plus bon des bons. Mais comment peux-tu dire que je suis bon et nier, refuser celui qui est mort pour l'humanité? Celui qui n'a pas péché. Celui qui a aimé. Celui qui nous fait des promesses de vivre éternellement avec lui. Celui qui est prêt à nous donner sans rien attendre en retour. Comment pouvons-nous dire que nous sommes bons et refuser de suivre celui qui est au-dessus de tous les bons? Ce n'est pas logique. C'est incohérent. Si tu es bon, tu finiras par suivre véritablement celui qui est bon. Le monde nous dit que qui se ressemble s'assemble. Donc, lorsqu'on trouve notre semblable, lorsqu'on se retrouve avec des personnes avec lesquelles on pense qu'on va s'entendre, automatiquement, on va aussi se regrouper. Parce qu'on est comme de la même nature. On a peut-être eu la même enfance. On a des points communs qui font que si on s'associe, on pense que ça va marcher. Mais celui qui est bon, si réellement il est bon, il finira par s'associer avec Jésus-Christ. Il finira par aller vers celui qui est bon, qui n'a fait de mal à personne. Il y a au-dedans de l'homme une loi, bien-aimée. Et cette loi, Jésus-Christ est venu l'accomplir. Nous avons lu dans Romains 7 comment l'apôtre Paul décrit la pression et le combat qu'il y a dans l'homme. Mais la suite du chapitre 7 commence en nous disant « Il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. » Cette chair qui condamne, cette chair qui nous pousse à faire le mal, l'apôtre va se poser une question, mais qui va me délivrer de ce corps de mort ? Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation en Jésus-Christ. La solution de tout homme se trouve en Jésus-Christ. L'incohérence que nous voyons dans ce monde, bien-aimé, il demeurera. Il a été avant nous et après nous, il sera encore. Mais le seul moyen d'être cohérent, d'avoir une vie cohérente, c'est de lutter contre la chair, c'est de prendre dessus sur le péché qui nous domine. Or, naturellement, cela est impossible à l'homme. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous a dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Le Seigneur est la porte du salut. Le Seigneur est la solution pour nous donner une vie cohérente, une vie abondante, une vie avec un objectif, une vie avec un but, une vie avec une logique, dans laquelle, lorsque nous devenons enfants de Dieu, nous savons désormais pourquoi nous vivons. Nous comprenons désormais pourquoi nous sommes sur la terre. Nous comprenons désormais pourquoi le monde va mal. Et nous comprenons surtout là où Dieu nous attend. Et nous espérons dans cette promesse que le Seigneur nous a faite de le voir un jour face à face. Les souffrances présentes sont incomparables à la gloire à venir. Cette gloire que le Seigneur nous promet. Mais cette gloire ne peut être vécue qu'en acceptant Jésus-Christ. Qu'en venant dans le Seigneur. Il a manifesté que ce qui était illogique pour les hommes est propre tout simplement à notre monde. Pour le Seigneur, lui, il est au-dessus de tout. Il maîtrise toutes choses. Le Seigneur a dit, nous allons réveiller Lazare parce qu'il dort. Les gens ont crié, mais Lazare est déjà mort. Ça fait 4 jours qu'il est mort. Il sent même déjà. Ça, c'est votre problème à vous dans votre monde. Vous êtes dans un monde qui est incohérent, dans un monde qui est illogique depuis la chute d'Adam. Mais voici dans le royaume de Dieu, ce qui est logique peut devenir logique. Ce qui est logique peut devenir logique selon le Seigneur. Ce qui est logique nous limite à nous, sur notre terre. Mais le Seigneur est parti et il a ressuscité Lazare. Lazare sort. Il y avait un homme qui était aveugle de naissance. Depuis son enfance, né aveugle. Le Seigneur va guérir cet homme. En prenant de la boue, en faisant de la terre, en crachant dessus, en faisant de la boue et en l'appliquant sur les yeux. Mais ça, c'est totalement illogique. Un homme qui souffre déjà des yeux, vous lui mettez encore du sable, de la boue sur les yeux. Ça, c'est illogique. Mais ça, c'est dans notre monde, bien-aimé. Mais lorsqu'on entre dans le royaume des cieux, alors on comprend qu'avec le Seigneur, nous pouvons avoir une vie logique. Nous pouvons avoir une vie cohérente. Le Seigneur l'a manifesté. Il a dit, je vais mourir, mais je vais ressusciter. On pouvait douter, on pouvait croire que maintenant, mais il raconte des histoires. Comment un homme peut-il mourir ? Peut-il détruire le temple et puis en 3 jours le reconstruire, comme certains ont dit ? Le Seigneur a montré que ça, c'est votre problème à vous. Il est mort et il est ressuscité. Comment faire confiance à une personne qui n'est pas logique ? Une personne qui te dit quelque chose mais qui fait le contraire. Comment lui faire confiance ? Il te dit A, mais il fait B. Tu ne peux pas faire confiance à un tel homme. Mais si nous faisons confiance au Seigneur, c'est parce qu'il a été logique dans ses propres propos. Il a été cohérent dans ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a fait. Il a dit, je vais mourir, mais je vais ressusciter. Il est mort et il est ressuscité. Ce qui est cohérent, c'est l'amour que Dieu a manifesté. Il a dit qu'il a tant aimé le monde. Et il a manifesté qu'il était cohérent dans son amour envers les hommes. Il l'a prouvé en donnant son Fils unique à la croix. Jésus-Christ est mort pour montrer que notre Dieu était le véritable Dieu. Ce que Dieu dit, c'est ce qu'il fait aussi. Et nous sommes appelés à être les exemples du Seigneur, à être cohérents dans notre marche, à être logique dans notre manière de faire les choses. Ce que nous pouvons dire, nous devons le faire aussi. Ce qui est mal, nous devons reconnaître que c'est mal. Mais nous devons en toute chose nous attendre au Seigneur parce que la véritable solution ne se trouve qu'en lui seul. À Jésus-Christ seul soit la gloire. Amen. Sois béni, Seigneur de gloire, sois glorifié pour l'œuvre que tu fais dans la vie de chacun, Seigneur. Nous sommes conscients, éternel de gloire, que si nous sommes là aujourd'hui, ce n'est pas par notre propre force. Oui, Seigneur de gloire, tel que Paul l'a décrit, Seigneur de gloire. Seigneur, la tentation est permanente. L'envie de colère est permanente, Seigneur de gloire. L'envie de mentir est permanente, Seigneur. Mais voici, tu nous as délivrés. Par ton Esprit Saint, Seigneur de gloire, tu nous as donné l'autorité de marcher au-dessus du péché. Et comme Paul l'a confessé, que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Seigneur de gloire, nous croyons que cela est aussi possible pour nous. C'est possible, Seigneur de gloire, que tu règnes en nous. Car la puissance du péché, Seigneur de gloire, est au-dessus de nos forces. Nous avons essayé autrefois, Seigneur, de combattre par nos propres armes. Mais la réalité, Seigneur, c'est que nous avons échoué. Et le monde entier, Seigneur de gloire, nous montre qu'il a échoué dans toutes ses tentatives d'incohérence, Seigneur. De toutes sortes d'actes illogiques qui perdent, Seigneur Dieu de gloire, les générations à venir. Seigneur de gloire, qui induit en erreur les générations à venir, qui ne savent plus discerner le faux du vrai, qui ne savent plus discerner ce qui est mal et ce qui est bien. Seigneur, nous te bénissons parce que tu nous as ouvert les yeux. Et nous te rendons toute la gloire, Seigneur, parce que nous savons que ce n'est pas par nos propres forces ni par notre propre intelligence. Seigneur de gloire, nous venons encore nous soumettre à toi. Confessez, Seigneur de gloire, que sans toi, nous ne sommes rien. Confessez que sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Notre paix se trouve en toi. Notre foi se trouve en toi. Seigneur de gloire, c'est auprès de toi que nous voulons demeurer. Combien même les combats peuvent être grands, nous avons cette assurance d'avoir fait le bon choix, Seigneur. Nous avons cette assurance, Seigneur de gloire, d'être à la bonne place, d'avoir la bonne part, Seigneur. Aide-nous, Seigneur de gloire, à ne pas négliger ta parole. Aide-nous, Seigneur de gloire, à ne pas déconsidérer tes enseignements, mais à prendre au sérieux, Seigneur de gloire, l'œuvre que tu fais dans nos vies. Renouvelle notre intelligence, Seigneur, afin que nous puissions avoir le discernement et nous tenir, Seigneur de gloire, au bon endroit, au bon moment, dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour ton pardon, Seigneur de gloire. Merci d'avoir purifié nos péchés, de nous avoir lavés par ton sang, Seigneur de gloire, et de nous avoir donné une seconde nature. C'est pourquoi il est écrit que si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Seigneur, merci parce que c'est toi qui nous fais marcher en nouveauté de vie. Et nous voulons encore te livrer nos vies, Seigneur de gloire. Règne dans nos vies, Seigneur, afin que ta volonté soit parfaite, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Béni soit ton saint nom, Seigneur de gloire, toi qui nous as aimés dès le commencement. À toi seul soit la gloire dans tous les siècles des siècles. À toi seul soit la gloire, Seigneur.